Bienvenue sur notre chaîne de podcast Développe ton zeste, le podcast pour les leaders, les managers qui ont envie de voir la vie autrement, d'organiser leur travail différemment et surtout de vivre en prenant le temps de respirer, d'innover et de partager de nouveaux repères. Alors pour démarrer, j'ai 4 questions pour vous. Je vous propose spontanément d'y répondre tranquillement, le plus honnêtement possible. 1. Après quoi courez-vous ? 2. Est-il nécessaire que vous soyez toujours au top, au travail, comme à la maison ? 3. Qu'est-ce qui est vraiment, vraiment important pour vous aujourd'hui et maintenant ? 4. Quelles sont vos priorités ? Peut-être que vous n'aurez pas eu le temps de répondre à ces 4 questions. En tous les cas, ça vaut la peine de s'arrêter. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire ensemble pour cheminer autour de comment nous gérons notre temps, comment nous subissons cette pression ou au contraire, nous arrivons à nous en dégager. Bonjour, je suis Nathalie Rocher, executive coach et entrepreneur. J'aide les hommes à mieux passer les transformations, à engager leurs équipes et aussi à vivre le plus sereinement possible en accord avec eux-mêmes. Et aujourd'hui, notre sujet de notre lien par rapport au temps, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur parce qu'il me concerne aussi et que peut-être on va partager quelque chose ensemble qui est le fait que nous avons l'impression de manquer de plus en plus de temps. Alors, est-ce que le problème est d'en avoir du temps ou pas ? Ou de changer notre vision ou certains comportements. Alors vous me direz, mais tout Nathalie, bien sûr. Eh bien, je suis d'accord avec vous et c'est ce qu'on va aller explorer. Bien évidemment, j'imagine que vous avez déjà été en formation, que c'est un sujet qui vous est passé par la tête. Ça ne veut pas dire que les outils qu'on a vus, que vous avez vus, ne fonctionnent pas. Ça veut juste dire qu'au-delà des outils, eh bien, il y a un vrai travail de posture. Il y a aussi un savoir-être peut-être par rapport à ce temps qui nous fait cruellement défaut. En tous les cas, c'est ce que vous me dites hein, quand vous venez dans les coachings. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un sujet sur lequel j'ai envie de vous partager une lecture que j'ai faite et puis aussi des réflexions. Alors bien évidemment, il n'y aura pas de recette magique, mais c'est surtout, voilà, partageons ensemble, réfléchissons et puis voyons comment quelques tips ou quelques manières de regarder autrement les choses pourraient vous transformer et vous amener du calme et aussi de la sérénité. En effet, votre rapport au temps parle de votre personnalité. Par exemple, quand on vous demande quelque chose pour agir, vous allez être plutôt dans « ok, on attend, on réfléchit, on médite » ou alors « c'est tout de suite, c'est maintenant, j'agis, je me lance ». Quand vous arrivez à une réunion, plutôt du genre à être en retard, voire pressé, voire même un peu peut-être des fois désagréable parce qu'on est en retard. Dans le genre, on envoie une image de toujours débordé, toujours pris, peut-être avec l'idée de se faire un peu désirer ou voire même d'être un peu désorganisé. Ou toujours à l'heure, voire même un peu avant l'heure parce que c'est important de ne pas brusquer les personnes, de prendre soin d'eux. Comme vous le voyez, notre rapport au temps parle bien évidemment de notre personnalité. Et c'est ça qu'on va aller un peu regarder. Parce que mieux je me connais, comme dirait Socrate, eh bien, mieux je peux agir et mieux je peux voir à travailler sur mes biais. Alors je suis sûre qu'il vous arrive de dire « je manque de temps, j'aurais pu faire ceci ou cela, ou si j'avais plus de temps, je pourrais ». C'est vrai qu'actuellement, notre culture nous amène à avoir une représentation du temps très quantifiée. L'idée aujourd'hui, ça va peut-être être de voir autrement et de considérer le temps plutôt dans son côté aussi qualitatif. Avoir du temps pour retrouver du plaisir, agir sur des actions qui vont nous donner de la force et du bien. Parce que entre vous et moi, eh bien, je crois que vous manquerez toujours de temps. Et à la fin de la journée, vous n'aurez jamais fini vos to-do list. Du coup, plutôt que chaque jour se répéter la même chose en se disant « j'ai pas eu ça, j'ai été dérangé » et on verra après comment pouvoir un peu reprendre du pouvoir là-dessus, l'idée que je vais vous proposer tout de suite, dès le démarrage, c'est de vous dire que vous allez avoir à faire des arbitrages. En effet, quand je me dis « je n'ai pas le temps », eh bien, est-ce qu'il serait possible plutôt de se dire « à quoi vais-je donner la priorité ?» Alors bien évidemment, vous allez me dire, t'es gentille Nathalie, mais en entreprise, les autres me donnent mes priorités. Eh bien oui, mais parmi celles qu'on vous donne, en quoi il y en a qui sont liées et nécessaires à votre position ou à la contribution que vous devez amener. Et puis c'est aussi l'idée de, quand je donne la priorité à, d'être en conscience. Et je pense que ces arbitrages sont bien évidemment frustrants. On verra tout à l'heure comment parfois c'est dur hein, de gérer ces impulsions. Par contre, ça nous donne l'idée de, ok, en conscience, je sais que si je ne finis pas ce rapport parce que j'ai préféré aller chercher mes enfants, eh bien, je devrais peut-être m'y remettre, soit demain de bonne heure, soit ce soir. En tous les cas, l'idée, c'est comment ma conscience va me permettre de prendre du champ et non pas de me laisser croire par un biais qui pourrait être celui de rétrospective ou fallacieux que, bien évidemment, quand on veut, on peut, ou que j'ai des super pouvoirs. Être en conscience, c'est aussi connaître son rythme. Oui, vous en avez déjà entendu parler, le biorhythme, c'est-à-dire plutôt du matin ou plutôt du soir. Alors bien sûr, hein, vous pourriez me dire des deux. Pas tout à fait, on a quand même une préférence. Donc l'idée, c'est regardez-vous quand vous êtes en vacances ou en week-end, comment ça fonctionne, à quel moment vous avez le plus d'énergie, à quel moment vous avez le moins d'énergie. En fonction de ça, eh bien, quand vous êtes bien en énergie, sur votre planning, sur votre agenda, mettez les choses de travail de fond ou les grandes réunions à animer. Et quand vous sentez que ce n'est vraiment pas votre quart d'heure, eh bien là, je vais vous proposer de faire des pauses. On y reviendra. Ou de prendre des choses qui vous demanderont moins d'énergie. Je sais bien que certains ont déjà tout essayé. Et ce que je viens de vous dire sur le biorhythme, ah, vous le savez, mais bon, ça ne marche pas chez vous. Ou les outils ne fonctionnent pas, ou les autres vous empêchent d'eux. Alors, j'ai envie de vous rassurer et vous dire que vous n'êtes pas tout seul, parce que si le grand secret de la gestion du temps était trouvé, on ne serait pas là en train d'en discuter ensemble. Par contre, je pourrais vous proposer de prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire réfléchir à finalement, qu'est-ce qui fait que je suis par exemple toujours en retard ? Et là, je vous propose de prendre un papier, ou alors dans votre tête, et d'écrire vraiment la problématique. Qu'est-ce qui fait que je ne suis à la bourre ou que je ne suis pas au rendez-vous ? Alors ça peut être, imaginons, je procrastine, je me dis qu'il n'y a pas intérêt à se dépêcher, on verra bien demain parce qu'on pourra avoir un ordre et un contre-ordre, ou comme je suis fatiguée parce que je travaille beaucoup, que ce n'est pas en équilibre, il y a des fois je vais dire que non, je finis parce que je ne vais pas lâcher là. Et c'est le quart d'heure de trop, le quart d'heure qui va faire que j'arriverai en retard, les enfants sont couchés, ou je ne pourrai pas aller au cinéma parce que l'horaire sera dépassé. Et du coup, ce petit quart d'heure, eh ben je cours tout le temps et je ne prends pas le temps de respirer. Puis j'arrive en boule. Ça peut être aussi, je me disperse, tout m'intéresse, je suis hyper curieux. Bah oui, pourquoi pas faire plus quand on peut faire ce qui nous plaît. En tous les cas, l'idée c'est, voilà, d'où vient d'après vous cette problématique de temps. Je suis sûre que vous vous connaissez, vous avez déjà réfléchi à la question. En tous les cas, c'est pas mal de se leur dire, et là, avec soi-même, de se dire, voilà, c'est plutôt là qu'à chaque fois, je vais dériver. En deux, je vous propose de faire une méga liste. Alors, méga, non pas qu'elle soit géante, mais qu'elle soit honnête. Et de rédiger la liste de tout ce que vous faites pour gâcher votre temps. Bon, moi, je ne vais pas vous cacher, je suis plutôt de la typologie, j'ai quelque chose à faire, j'ai un rendez-vous, et je vais tirer mais un maximum pour essayer d'y arriver. Un autre truc que je sais bien faire, c'est disperser mes affaires. Au lieu de ranger tout le temps mes clés au même endroit, eh bien non, chaque jour ça change. Donc, quand je suis pressée de partir, bien évidemment, je ne me rappelle pas où je les ai posées, et c'est là que commencent vraiment les désagréments. Donc, je suis sûre que vous aussi, vous avez plein de trucs et astuces qui vont faire que vous vous gâchez un peu la vie et que vous vous y prenez très bien pour susciter du retard. La troisième étape, c'est de regarder cette liste et en se disant, bon quand même, ok, je fais peut-être pas tout ça à tout prix. Et donc du coup, je vais vous proposer de prendre le 1%, vraiment le truc que vous faites tout le temps, qui est vrai et qui quand même vous cause pas mal de déboires. Donc ça peut être, j'ouvre mon ordinateur 10 minutes avant de partir. Le truc qu'il ne faut pas faire, parce que tu vois ton mail, par exemple. En tous les cas, ce que vous faites régulièrement, de manière récurrente, et à chaque fois, ça vous fait plonger. Et ma quatrième étape, eh bien, je vous propose d'abandonner un comportement. Donc, vous voyez, je ne vous demande pas de faire autrement, je ne vous demande pas de faire même différemment. Lâchez. Lâchez le truc qui, à chaque fois, va vous faire prendre les pieds dans le tapis. Donc, une fois que vous le savez, eh bien, quand vous serez dans l'envie de le faire, parce que vous avez toujours fait comme ça, parce que quand même, parfois, ça fonctionne bien, eh bien, vous vous direz, non, ça, c'est le comportement que j'abandonne. Je rappelle que pour ancrer un nouveau comportement, 21 jours pour que ça devienne le geste métier, qu'on appelle le geste d'expertise, et que vous le fassiez sans même y réfléchir. Alors, on en parle de la procrastination. C'est un grand mot, hein. Ça a l'air un peu compliqué. Et selon le psychologue canadien Pierre Steele, il s'agit de reporter délibérément et inutilement une activité ou une action précédemment prévue, tout en sachant que ce retard aura des conséquences négatives. Alors, vous pourriez avoir envie de me dire « Ah non, non, mais moi, ça ne me concerne pas, hein, Nathalie. » Eh bien, d'après une étude d'Opinion Way de 2018, apparemment, nous sommes en France les champions de la procrastination. 49% d'entre nous procrastinent au moins une heure par jour au travail. Et 20% seraient des procrastinateurs chroniques. C'est bien pour ça que je vais m'arrêter un peu sur cette notion. Après, bien évidemment, pour certains d'entre vous, vous êtes plus ou moins concernés. En tous les cas, on est tous un petit peu là-dedans quand même. Alors, comme j'ai aucunement envie de vous donner des recettes, et je sais très bien que les recettes, ça ne fonctionne pas sur la procrastination, j'ai plutôt envie de vous parler des sources. Qu'est-ce qui fait que, finalement, on va vouloir remettre ? Eh bien, souvent, les émotions vont nous entraîner à procrastiner. Et il y en a une qui est la peur, qui va être la carte maîtresse dans le fait de remettre à demain. Pourquoi ? Eh bien, parce que parfois, je vais avoir une idée de moi-même pas très valorisante. Genre, je ne suis pas très douée, donc il faut mieux pas que je le fasse. Petite estime de soi. Ça nous ramène à l'intelligence émotionnelle. Et vous le savez, c'est un de mes dadas. Parce que je crois vraiment que mieux on se connaît à ce titre-là et plus on est puissant. Ça peut être aussi vraiment avec la peur de l'échec. La peur de se dire, oh là là, si je le fais puis que c'est faux, on s'en aperçoit, waouh. On va plutôt reporter, essayer de trouver quelqu'un. Ou voir trouver une excuse, vous voyez le côté je tourne en rond, j'y vais pas, j'essaie de dire que c'est pas important, ou alors je mets toute mon énergie à convaincre quelqu'un dans un groupe que non, on n'a pas besoin de le faire. Alors, j'ai envie de vous dire que plus vous allez reprendre le contrôle de la situation, meilleur ça sera. Donc oui, j'accepte peut-être d'avoir un peu peur, j'accepte que je ne serai pas parfait, mais en tous les cas, ça fait sens d'agir. Parce que soit c'est dans ma mission, soit parce qu'on en a vraiment besoin. Et que si ça fait sens, on verra tout à l'heure l'idée de se mettre des mini-objectifs et surtout se donner des délais très courts ou des délais connus. Autre grande source de la procrastination, c'est le stress. En effet, souvent, le stress va nous empêcher d'agir. Donc, on va trouver que c'est trop désagréable, on ne le fera pas. On va, comme je le disais, peut-être avoir peur de faire une erreur, on va être dans cette culpabilité, ou même ça va nous ankyloser, donc on perd notre sens des repères et donc on ne peut pas agir au bon endroit. Ça va nous entraîner parfois dans la dispersion et on est complètement défocusé de ce qu'on attend de nous ou ce que nous devrions faire absolument. On le sait, le plaisir est une émotion qui va pousser à l'action. Donc souvent, on essaie de faire des choses qui nous font plaisir pour être dans notre flow. Alors bien évidemment, ce n'est pas toute la journée. Et puis on met un peu de côté le sujet qui va nous demander d'être tranquille ou de réfléchir de manière ardente. Donc je vous propose là aussi de transformer votre approche par rapport à comment je pourrais rendre quelque chose de déplaisant un peu plus plaisant. Peut-être en écoutant de la musique, en se versant une tasse de café. En tous les cas, comment, quand j'ai des choses qui me déplaisent, je peux mettre un environnement plus plaisant et surtout plus facile. C'est aussi l'idée de « Oh, je dois encore faire mon dossier. Tous les mois, ça revient, ce dossier Z, j'en peux plus. » À plutôt que « je dois » aller sur « je choisis ». Oui, je choisis de faire le dossier Z parce que c'est comme un marronnier. Un marronnier en journaliste, ça veut dire « ça revient à chaque saison ». Donc du coup, comme je suis au courant, hein, eh bien, je me réserve un rendez-vous avec moi-même et je fais ce fameux dossier Z sans même y réfléchir, mais de se dire plutôt, je choisis le bon moment, par exemple le moment où je suis en forme, si c'est le matin, je me bloque 2 heures, et comme ça je vais être plus rapide, meilleur, et une fois en plus que ça sera fait, je serai très content, parce que là vraiment, j'aurai trouvé l'avantage caché, c'est-à-dire à être débarrassé du mauvais dossier. Donc je vous propose que plutôt de vivant, je dois faire ça, je suis obligé de, à ok, ça fait partie de ma tâche, par contre je choisis de le faire à ce moment. L'idée aussi c'est de trouver un avantage caché, plutôt que de procrastiner, c'est ok, à quoi ça me permet d'échapper si je fais ça, ou tout simplement qu'est-ce que ça me permet d'obtenir, ou quelle émotion. En tous les cas l'idée est d'être dans des objectifs et des délais réalistes, de se fixer aussi des micro-objectifs, et aussi de prendre rendez-vous dans son agenda pour pouvoir faire ces fameuses choses qui sont une partie non négociable de ce qu'on a à faire et qui, plus on les reporte, plus s'alourdissent, voire même deviennent somatiques au niveau de notre dos, de notre boule au ventre, etc. Afin de réussir à ne pas procrastiner, je vous propose aussi de vous mettre dans un lieu où vous allez éviter les tentations. C'est-à-dire créer des conditions de succès. On le fait pour les équipes, pour les projets. Faites-le pour vous. Désactivez les notifications. Mettez votre téléphone sur pause. Prévoyez un endroit où vous n'allez pas être en passage et puis chacun va s'arrêter pour vous proposer d'aller boire un café. Donc là, je parle aux plus rebelles. Et oui, on va devoir s'entraîner à résister. Ah, c'est moche, hein. Non, je sais. L'auto-frustration, pour certains, et vous vous reconnaîtrez, c'est pas le truc qu'on préfère. Néanmoins, c'est comme beaucoup de choses, on a besoin de s'entraîner, on a besoin de se muscler. Donc, prendre, j'ai envie de dire, le pouvoir sur son temps, c'est aussi accepter de développer une certaine musculature. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Vous savez que j'aime bien les petits proverbes. Et donc là, avec cette idée d'aller loin et de prendre soin de soi, on arrive au fait d'accepter de faire des breaks. Ah oui, alors le mot pause, c'est un peu tabou hein, parfois en entreprise. Vous avez remarqué, on fait beaucoup de salles de pause, il n'y a pas beaucoup de gens qui y vont. Et encore plus quand on travaille à distance. Parce qu'on a vu qu'effectivement, travailler à distance, ça enlève la fatigue du temps de travail. Mais finalement, il y a moins de pauses. Moins de breaks avec les collègues pour aller boire une tasse de café ou aller déjeuner. Et quand on travaille chez soi, eh bien, il serait plus difficile de s'arrêter quelques instants et d'avouer par exemple qu'on s'est fait une petite micro-sieste, alors que je vous invite vraiment à breaker, parce que déjà votre cerveau, ça va lui faire du bien, ça va lui donner de la respiration pour après en reprendre une activité et être vraiment focus. Donc même si la pause, c'est pas un mot qui vous plaît, eh bien je vais vous proposer une autre manière de l'appeler, mais ouais, c'est juste un petit rond de jambe hein, pour éviter. Ça va être l'idée de se dire, je prends un temps de récupération. Bien souvent, vous me parlez de coaching mental. Eh bien, les sportifs se font souvent accompagner sur du coaching mental. Et ton mental et ton corps ne font qu'un. Donc pour vous, c'est un peu pareil. Et l'idée de se dire que faire une pause, c'est de la glandouille, pas du tout. Donc je vous invite à vous octroyer des temps de récupération qui vous plaît. Une respiration. Alors, on n'est pas obligé de méditer. Hein. C'est pas parce que y a beaucoup de gens qui parlent de méditation, de respiration, de yoga. Ça peut être tout simplement, je fais de la cuisine, je m'arrête, je lis, j'écoute de la musique. Je m'allonge tout simplement quand je peux, je ferme les yeux. En tous les cas, je récupère et vous allez voir que votre attention va vous être rendue avec beaucoup plus de concentration. Alors bien évidemment, hein, je parle de la pause aussi digitale. Une pause, c'est pas avec mon téléphone où je vois tous les pop-up arriver. Non, il y a vraiment cette idée de déconnexion, puisque même si ça va pas être le sujet phare aujourd'hui, la digital détox est vraiment importante afin de reposer tête, cœur et corps. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien parce que vous le savez, avec la transformation, il y a des gros enjeux sur l'apprentissage. Et pour acquérir de nouvelles compétences, vous avez besoin de votre mémoire dite à court terme, c'est-à-dire la mémoire disponible. Et quand je suis fatiguée, quand je travaille trop, quand je dors pas assez, quand j'ai trop d'infos, eh bien je sature. Et qu'est-ce qui sature ? C'est ma mémoire à court terme. Donc du coup, vous avez intérêt à la vider, cette mémoire. Et pour la vider, il n'y a pas mieux que de faire des breaks. C'est pour ça que le break est important. Ce n'est pas un phénomène de mode. C'est parce que ça va vous permettre de récupérer. Et d'ailleurs, on le voit très bien parce que j'ai lu un article où on montrait bien que quand on compare des IRM représentant l'activité d'un cerveau qui travaille pendant plusieurs heures sans pause à celui d'un cerveau qui travaille dans des intervalles de repos, le résultat est sans retour. Il est hyper important de mettre des stops, de respirer. Ça, c'est Daniel Kahneman et Nicolas Wyckoffer qui ont travaillé là-dessus. Et quand, en session de coaching, je vous entends dire « Non mais là, je travaille dur, mais il y aura bientôt les vacances », je vous rappelle qu'un cerveau, ça se repose au quotidien. Donc fini le « on travaille comme des durs pendant 5, 6, 10 semaines et on verra bien après ». C'est en même temps. D'ailleurs, vous le voyez bien, les nouvelles générations sont vraiment dans ce process d'alternance et c'est aussi pour ça qu'ils nous parlent qualité de vie, ils nous parlent équilibre. Arrêter de courir, ça passe vraiment aussi par l'idée de donner ou se donner des priorisations à soi, c'est-à-dire regarder où parfois mon temps va être gaspillé. Et bien évidemment, je ne peux pas faire l'économie de vous parler des écrans. Alors, loin de moi de vous faire la morale et encore moins de vous culpabiliser. L'idée, c'est juste de se dire, ok, combien de temps vous passez réellement par jour sur un écran ou sur plusieurs, pourquoi pas, entre 2 et 4 heures, 1 et 2 heures, plus de 4 heures, et de voir en quoi ça vous spoil, en quoi ça vous prend de l'énergie. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, les écrans, eh bien, quel avantage, quel est le bénéfice caché que j'ai à regarder à 11 heures du soir, ça ou ça. Et puis, se dire aussi, mais quel problème ça engendre finalement? Est-ce que ça mange de mon temps de sommeil? Est-ce que ça mange de mon temps de sociabilisation? Puisque je rappelle aussi que être sociable, c'est une manière de se faire du bien pour certains, c'est-à-dire être en lien, partager, guider, se mobiliser aussi. Et en fonction de votre équilibre, c'est-à-dire là, en quoi j'ai un avantage, en quoi j'ai un désavantage, eh bien là aussi, ce n'est pas de faire plus, mais de se faire autrement ce qu'il vous va. C'est bien clair que là aussi, il y aura peut-être un peu d'auto-frustration. Ah mais j'ai pas dit que tout allait être facile. Travailler sur son rapport au temps, c'est aussi prendre un pas de recul par rapport à cette culture de l'urgence, cette culture de l'immédiateté à laquelle parfois on contribue sans même réfléchir. Par exemple, vous êtes en déplacement, vous arrivez à l'hôtel, le réseau Wi-Fi n'est pas assez rapide. Ah, tout de suite, ça vous met colère. Ou alors, vous commandez sur Internet, mais comment ils ne vont pas me livrer avant 48 heures, mais comment c'est possible? Aujourd'hui, je vais faire un Deliveroo. Ah, il faut attendre une heure avant que vous me livriez? Waouh! Ou même vous? Vous avez fait un mail, 3 heures après, vous envoyez un texto. Ben ouais, on ne vous a pas répondu dans les 2 heures. Si vraiment on prend un petit temps, mais est-ce que ça sert? Est-ce qu'on n'est pas plutôt là en train de construire des modes d'échange qui mettent du stress, qui génèrent de l'impulsion, voire même des erreurs? Donc, j'ai envie de vous proposer parfois de vous dire, voilà, comment je me situe? Est-ce vraiment si important? Comment je peux réapprendre à patienter ou à redonner du temps au temps pour souffler? Concrètement, ça veut dire quoi? J'arrête de mettre de la fausse pression. Par exemple, je n'envoie pas un texto pour savoir si mon mail est bien arrivé. Quand je peux me déplacer, pourquoi je commanderais par Internet? J'arrête de répondre du tac au tac à un email en même temps que je suis en train de téléphoner, voire en train de faire un rapport. Et je dis à mon équipe, dans les règles du jeu, eh bien nous pouvons prendre le temps avant de nous répondre et surtout, je fais ce que je dis. Parce que le problème, c'est que bien souvent, on prône des règles d'or qu'on n'applique pas. Ce qui envoie aux collègues, aux collaborateurs, des doubles messages et ils ne savent pas sur quel pied danser. Donc, je vous invite vraiment à participer à l'arrêt de cette culture de l'urgence qui n'est absolument pas productive et qui génère un stress dont on pourrait vraiment se passer, dont vous pourriez vous passer. Alors bien évidemment, comme vous ne vivez pas tout seul dans une grotte, il y a aussi comment vous allez gérer la pression des autres. surtout ceux qui vous volent un peu votre temps. Vous savez, ceux qui viennent vous demander des choses alors que ce n'est pas à vous de les faire, ou ceux à qui vous allez dire oui parce que vous voulez les aider. Donc, je vous propose, tous ces voleurs de temps, de pouvoir les regarder et puis aussi faire une petite liste. À un moment, quand je suis en retard ou quand je me suis mis dans un truc qui n'est pas juste pour moi, vous allez le ressentir. Ça va vous mettre un petit mal au ventre, ça va vous faire un peu mal aux épaules. Donc, je vous invite un peu, sur une période de 2-3 semaines, regardez à quel moment vous avez dit oui à quelque chose auquel vous auriez dit non. L'idée, c'est comment réapprendre ou apprendre à remettre des frontières, à oser dire que oui, vous voulez bien être aimable ou aidant ou aidante. Par contre, ce n'est pas possible parce que vous-même, vous avez une grande charge de travail ou parce que vous-même, vous avez d'autres choses à délivrer ou à réussir sans culpabilité. Là, on parlera d'assertivité et ça, je vous laisserai repartir sur un ou deux autres podcasts que nous avons fait avec mes collègues. Mais en tous les cas, l'idée, c'est comment je peux accueillir l'autre, mais ne pas céder à sa pression afin de prendre soin de moi et surtout d'être légitime dans ce que je fais et avoir l'énergie de faire ma mission et être là au rendez-vous à titre pro ou à titre perso. On arrive à la fin de ce podcast et j'ai été vraiment ravie de partager autour de sujets qui est très inspirant pour moi, vous l'avez bien entendu, je crois, un vrai coup de cœur grâce à Nina Bataille. Si vous voulez aller plus loin, vous pourrez aller acheter son livre « J'arrête de courir après le temps », le trouver très jovial, très chouette et avec plein de petits bonus, tips, en tous les cas, qui nous permettent de prendre le pas de côté et aussi de se dire « Ok, comment je peux faire et comment je peux reprendre petit à petit contrôle sur ce temps, soit par rapport à ma posture, soit par rapport à la perception que j'en ai. » Un grand merci de votre écoute. On se retrouve bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye.